Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'entretien. Par les temps qui courent, c'est une conversation qui dure une heure tous les soirs, ce soir avec la musicienne Christine Hott.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Christine Hott.
Dans la neige de la pellicule noire et blanc, par un froid que l'on imagine glacial, au milieu des années 20 et de la baie de Hudson, des Inuits tapent sur leurs bottes pour en faire tomber les flocons, enlèvent les peaux d'animaux qui les couvrent, les roulent au sol et se glissent sous d'autres peaux plus larges installées en couverture. Des plans de coupe montrent un troupeau de chiens presque immobiles, s'ébrouant soudainement pour eux aussi se défaire de la neige. La femme du groupe attrape un nouveau-né qu'elle déshabille à son tour et glisse contre son torse nu avant de s'allonger. Celles et ceux qui l'ont vu ont reconnu l'une des toutes dernières scène de Nanook of the North de Robert Flaherty ou Nanook l'Eskimo pour sa traduction française. C'est autour de ce film documentaire mythique que vous composez votre dernier album à paraître chez Guizet Records, Christine Hott. Il est destiné à être écouté évidemment, mais aussi joué en ciné-concert dans différentes villes françaises. Bonsoir à vous Christine Hott et bienvenue.
Merci beaucoup, bonsoir à vous.
On va donner quelques dates de cette tournée avec Nanook. Le 8 novembre 2019 à la salle du Cercle à Bischheim, le 15 novembre à Cernay, le 29 novembre à Klems, le 10 décembre à Célesta, le 13 décembre à Obernai, ensuite vous serez en Belgique et en Hollande. On va écouter, si vous le voulez bien, une archive de Robert Flaherty.
L'idée principale des films de ma vie a été en quelque sorte d'explorer. J'ai commencé ma vie dans le nord de l'Amérique en tant qu'explorateur. J'ai passé 10 ans dans le Grand Nord auprès des Esquimaux. J'ai vécu tant de choses avec eux de manière si intime que je suis devenu un grand admirateur des Esquimaux. Et puis j'ai eu l'opportunité en y allant de réaliser des films sur les Esquimaux que j'ai appris à connaître et à apprécier. Et j'ai réalisé Nanook l'Esquimau. Le succès du film a laissé place à un nouveau personnage. Nanook a été célèbre dans le monde entier. Si bien que 2 ans après avoir réalisé le film, Nanook ainsi que 2 autres personnes du film sont morts de faim. Son nom est alors apparu dans toute la presse à travers le monde entier. Ça m'a conforté dans l'idée que je pourrais aller n'importe où dans le monde, auprès de n'importe qui, et qu'en l'explorant, je pourrais mettre en lumière l'intérêt de leur monde.
parlais de ce froid qu'on imagine glacial mais qu'on n'entend pas dans le film de Robert Flaherty parce que c'est un film muet, une archive de 1949 où il évoque ce tournage et la dimension mythique qu'a pris progressivement ce film, notamment malheureusement à cause de la mort de Nanook après le tournage. Christine Nott, est-ce que vous pouvez décrire ce qui se passe, la scène, comment les choses sont organisées lorsque vous jouez de la musique pour un ciné-concert avec Nanook of the North?
En fait, il se dessine des instruments qu'on a choisis à reproduire quelque chose de très organique, comme les éléments qu'on retrouve, le vent, la neige, et on a eu envie, donc avec Thorsten Butcher, de retrouver ce côté très minimaliste de cette vie là-bas qui est quelque peu difficile et austère. En même temps, il y a toute cette partie dans le jeu, la gaieté de ce peuple. Et donc, on a utilisé des choses qui peuvent paraître très surprenantes, qui sont venues au fur et à mesure, puisque on a... Au départ, moi, j'essaye le plus possible de retrouver une certaine spontanéité et de travailler à l'image en direct, donc de façon improvisée. Et après, on construit peu à peu. Et donc, l'idée du toy piano, du ukulélé, pour des scènes de jeu entre le père et son fils, qui sont très, très belles. Donc, de travailler sur vraiment des choses presque... Par exemple, le tube harmonique pour retraduire l'effet du vent, utiliser l'intérieur du piano dans les cordes, dans les marteaux, dans tout ce qui était percussif dans le piano. Donc il y a cette partie, un petit peu cette dualité qui finalement, je pense, a été remarquée aussi par Robert Flaherty lui-même. C'est-à-dire un peuple où finalement, ils sont confrontés aux aspects très difficiles de la nature, mais en même temps, ils gardent toute leur fraîcheur, toute leur une espèce de naïveté dans les jeux, dans les choses construites avec très peu de choses, mais qui sont hyper belles. Et à un moment donné, ils sculptent un jouet. Il y a des moments comme ça. Et du coup, on a l'occasion de voir effectivement à la fois ce bruitage et cette sonorisation du film avec des choses qui sont très très organiques, très c'est assez visuel aussi. Dans c'est un ballet qui passe de l'un à l'autre. À un moment donné, on essaye de passer très très délicatement dans les transitions. Et voilà, ça, il y a beaucoup de concentration aussi, puisque finalement, tout au fil, par exemple, si je décris, je passe du tam suspendu au piano, puis ensuite au ukulélé, au toy piano, à la voix. Thorsten utilise le tonnerre, le hang, la kalimba. Donc il y a énormément des apos à un moment donné aussi, des choses vraiment qu'on a voulu très 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 proche de la nature.
Est-ce que ça reflète la manière dont vous avez travaillé? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vous imaginer, Christine Nott, avec un écran chez vous, dans un atelier, ou je ne sais pas où est-ce que vous gardez tous ces instruments de musique, jouant et rejouant le film, et presque jouant aussi en cherchant des choses, en improvisant des choses? C'est comme ça que vous procédez?
Oui, c'est tout à fait comme ça, oui. Avec des fois, pas toujours, les idées viennent, comme vous le dites, vraiment petit à petit. Et puis, j'entends beaucoup dans ma tête, par exemple, l'idée du tam suspendu qui ouvre vraiment la session de Nanook est venue après. Il se trouve que pour la création, on a eu cette idée, on a eu la chance d'avoir la possibilité d'avoir un tam. Donc, c'est vraiment...
Vous pouvez dire ce que c'est pour les personnes qui n'ont jamais vu un tam?
Un tam suspendu, donc c'est un tam chinois. Donc, on imagine une sphère métallique et ce tam est suspendu et en fait avec une maillotche on déclenche le son et qui va vibrer, donc on a cette vibration très profonde.
C'est super beau en plus.
Ouais,
visuellement c'est assez incroyable. À voir. Donc vous êtes dans une salle, vous avez tout plein d'instruments autour de vous et puis c'est quoi, jour après jour vous re-regardez le film, vous le re-regardez, vous cherchez progressivement?
Voilà. Tout à fait. Et des fois, il y a des... Par exemple, les apos sont venus après coup. J'entendais des choses au niveau de certains passages du film. Des moments où on avait envie de faire vivre plus la nature. Donc, à un moment donné, J'aime bien ce côté, comment dire, j'aime bien dire des fois des choses tombent du ciel et pour vous. Et par exemple, j'ai un ami qui m'a offert, il revenait de vacances en Corse et il a rencontré un petit artisan qui a fait un appo qui n'existe pas, qui est un appo avec deux bouts de bois et percé avec une très longue ficelle. Et finalement, elle retranscrit tellement les oiseaux et donc c'est extraordinaire parce que voilà je l'ai utilisé et puis voilà ça recrée aussi des choses puisque en fait on a beaucoup retravaillé Thorsten et moi et le spectacle a été créé donc au festival de films de La Rochelle et puis se sont passées plusieurs années sans que on soit programmé et puis finalement une programmatrice que j'aime beaucoup Sarah Sgaier de la salle du Cheval Blanc. J'en parle parce que c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup. Ça touche Strasbourg. C'est à Schiltigheim et c'est un lieu que j'affectionne parce que c'est très intime, c'est très et Sarah est très elle était dans le cinéma avant, donc elle est très sensible et quand elle a vu que j'avais ça dans mes créations, elle m'a dit mais il faut absolument que je vois ça. Et nous on était un peu paniqué parce que voilà on l'avait pas joué depuis 5 ans et comme c'est beaucoup en improvisation ça voulait dire il fallait retrouver la mémoire et du coup on a eu ce plaisir d'avoir une petite résidence là-bas qui nous a permis aussi on avait envie de pousser plus loin retravailler certains passages qu'on voilà
lors de la programmation du film et du ciné-concert à La Rochelle c'était une proposition du festival de La Rochelle ou c'est vous qui teniez à travailler sur Nanook of the North
alors c'était une invitation au départ pour Tabou et cette année-là j'ai
qui est donc travaillé. Aussi un film muet sur lequel vous avez, voilà. Vous avez composé de la musique.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, Robert Flaherty et Murnau. Et du coup, ils m'ont proposé deux choses. Donc, Tabou et cette création de Nanook, plus des ateliers justement de musique et cinéma avec des étudiants qui venaient... à la fois de milieux très différents. Il y avait des étudiants du conservatoire, des étudiants d'école du cinéma, des étudiants de plusieurs endroits différents. Et sur 4 jours, on a travaillé sur un court-métrage de Max Linder, En Tente Cordiale, qu'on a donné live, enfin qu'ils ont donné live, puisque le but c'était pour moi de les guider ensuite, c'était important pour moi que le live se fasse sans moi. Et voilà, et donc du coup, ils ont proposé cette création qui, au final, était quelque chose de magnifique. Je n'avais pas osé parce que dans le choix de mes ciné-concerts, j'essaye de travailler, bien sûr, sur un coup de foudre. On a besoin que le film nous émeuve. J'avais pas osé m'intéresser à Nanook l'Esquimau parce que il y avait déjà énormément de créations. Donc voilà, comme par exemple j'avais choisi Lothar Heininger parce que c'est les courts métrages que j'ai choisis sont beaucoup moins connus, par exemple que Les Aventures du Prince Ahmed. Par exemple dans Murnau, j'ai choisi Tabou. Plus souvent on a l'Aurore, mais aussi finalement ce qui est extraordinaire, c'est que Tabou pour moi c'est un choix vraiment. Au final, qui me bouleverse complètement. Et en travaillant sur le film, je trouve que, avec du recul, c'est pour moi presque. Enfin, j'ai pas envie de comparer, bien sûr, mais c'est tellement fort. Et du coup, je suis heureuse de présenter Tabou parce que j'aime beaucoup ce côté de mettre en avant des choses qui sont peut-être moins jouées, moins. Voilà, en même temps, on a sa création personnelle. Donc, c'est surtout bien qu'on puisse le donner.
Qu'est-ce que vous aimez tellement dans le ciné-concert, dans cette forme de partir d'un film qui a une histoire muette, parce que pour des questions de technique et d'histoire du cinéma, et d'arriver à une œuvre qui est une œuvre quand même très particulière, quoi, de jouer de la musique sur un film qui jusqu'à maintenant avançait comme ça?
Alors, l'idée, elle est plus générale et s'inscrit peut-être pas forcément que dans le ciné-concert, c'est-à-dire que c'est dans le cinéma en général. J'ai beaucoup grandi avec des frères qui étaient tout le temps à leurs appareils photo, un papa qui était tout le temps avec sa caméra, etc. Donc il y a un peu cette habitude d'avoir autour de moi...
des images, des gens qui font des images.
Voilà, voilà. Et puis après, il y a déjà qu'elle m'inspire. Et puis, le côté aussi que j'aime beaucoup, c'est de la mise en danger. Parce que finalement, les images et le sujet du film le vous font aller dans des recoins de votre univers qui sont peut-être pas exploités, qui sont pas... Ça vous fait aller vraiment dans d'autres directions. Et ça m'intéresse beaucoup de on n'est pas dans un confort de choses qu'on connaît, mais les images vous forcent des fois à aller vers, je ne sais pas, par exemple, je pense là à Murnau dans Tabou, une scène de danse qui me paraissait au début, qu'est-ce que je vais faire là-dessus ? Parce que voilà, des choses comme ça et qui sont vraiment super intéressantes parce que quand on trouve, on est hyper content. C'est de nouvelles voies, c'est de ça.
Et souvent, vous trouvez vite ou au contraire, il vous faut chercher longtemps devant une image, devant une scène, jusqu'à trouver une adéquation parfaite. Tout à l'heure, vous disiez, j'aime bien que ça tombe du ciel.
Alors, ce qui tombe du ciel, c'est des fois des hasards aussi. Pour des découvertes d'instruments ou comme Thorsten. Pour moi, Thorsten est tombé du ciel dans la rencontre.
C'est le musicien avec lequel vous produisez pour Nanouk l'Eskimo.
Et puisque avant de le rencontrer, je connaissais bien sûr le hang, mais je connaissais pas de joueur de hang. Et donc voilà, il y a des choses que je trouve des fois dans les parcours un peu magiques, des gens qu'on rencontre au moment, je l'ai rencontré au moment où j'étais en train de travailler Tabou. C'était vraiment lui qui manquait sur certaines scènes, etc. Et ça, voilà, ça détermine aussi les choix, ça détermine les directions, ça, voilà, j'aime bien cette part d'imprévu. Et voilà. Mais c'est vrai que ce qui se passe, c'est que souvent, pour répondre plus précisément à votre question, c'est que souvent, la part spontanée, et là je le vois aussi avec mes étudiants, parce que depuis j'ai créé il y a 3 ans une unité d'enseignement au conservatoire où je travaille à Strasbourg, où j'enseigne les ondes également, les ondes Martenot, et je suis très heureuse d'enseigner donc musique et cinéma, et on travaille finalement de la même façon, et je me rends compte que, puisqu'on enregistre tout ce qui est fait, et après on le recale à l'image, on voit ce qu'on peut améliorer, c'est que souvent le premier... J'ai la première spontanéité. Si on fait appel à son intuition, c'est la bonne. Après, ce qui reste à travailler, c'est la précision, les nuances, tout ce qui est le travail de comme à l'orchestre, de fignoler, et puis il y a bien sûr la synchro au film. Et là-dessus aussi, j'essaye d'expliquer je le ressens les premières fois. Alors là, pour le film muet, c'est hyper déroutant au départ, puisque finalement, c'est ce que vous disiez au début de l'émission, on découvre un film sans rien, quoi. Donc,
ou alors avec plein de choses, mais pas de son.
Oui, voilà, sans rien, oui, voilà. C'est pas de son. Et ça, je sais que c'était... Bon, mon premier film, justement, c'était Tabou. C'est d'un coup, 1h20, donc sans aucun son. Et puis, j'avais décidé auparavant de le faire seule. Donc ça sous-entendait, tout le monde m'avait dit à l'époque, t'es complètement folle, tu peux pas commencer toute seule sur un film aussi compliqué, c'est pas possible, c'est trop long, c'est trop... Voilà, mais bon, c'était mon choix. Donc. Et puis après, donc l'idée, c'est vraiment d'habiter sans écraser le film. Alors il y a donc toute cette partie bruitage, toute cette partie musique, mais c'est vrai que souvent les premiers jets sont souvent les bons. Et ouais,
pour Nanouk l'Eskimo, c'est un film qui vous a emmené sur quel territoire que vous ne connaissiez pas de vous et de votre musique, Christine Hott?
Peut-être sur des éléments plus percussifs. Il y a un peu cette dualité, des choses un peu minimalistes, des choses un peu suspendues au piano, très mélodiques. Et puis, d'un autre côté, des choses beaucoup plus rythmiques, un peu plus jazz, avec une chose qui aussi de beaucoup découvrir l'intérieur du piano. À un moment donné, je fais des sons, c'est presque, ça fait penser à des sons de sitar. Donc, de découvrir toute cette palette, et c'est ce qui m'intéresse aussi en fait, c'est toute cette frontière entre le bruitage et la musique, où est la frontière, est-ce qu'il y en a ou pas. Et c'est quelque chose que j'adore faire avec mes étudiants, mais que j'adore faire moi-même aussi. Et c'est un peu... peut-être je vais choquer des gens, mais peu importe. C'est de décomplexer les choses, c'est-à-dire d'aborder des instruments. Par exemple, je suis pas du tout percussionniste, mais d'aborder des instruments de percussion ou à un moment donné, je suis sur un tome basse, mais d'aborder avec son regard, son écoute de musicien, pas forcément de spécialiste de tome ou de tam ou de tel et tel, mais de avec ses sa direction musicale, d'aborder autrement. Et des fois, on arrive sur des choses très surprenantes, qui sont hyper belles. Et je pense notamment, par exemple, à... Je pense là à une session qui me vient en tête avec un étudiant qui était au départ claveciniste, avec qui on travaillait et qui s'est mis à faire des effets incroyables sur les instruments de percussion. Et c'était sur un film japonais, un film expérimental. Et c'était extraordinaire parce que un percussionniste n'aurait pas forcément fait ça. Et c'est ça qui m'intéresse aussi de...
Et ils sont volontaires, ils sont prompts à faire ça, vos étudiantes et vos étudiants. Ils ont... Parce qu'il fut un temps, l'enseignement au conservatoire laissait bien chacun dans sa petite case. Oui. Et c'était très difficile d'aller expérimenter des choses quand on venait d'un instrument particulier. Oui. Aujourd'hui, les jeunes gens à qui vous enseignez, ils ont envie justement de se sentir non spécialistes sur des instruments.
Ils sont très décontenancés. Donc,
quand même.
Oui, oui. Ouais, totalement. Et mais c'est très beau parce que c'est, enfin, il y a beaucoup d'émotions au bout. C'est-à-dire sur le début, ça dérange. Ils sont un peu mal à l'aise et puis ils osent pas. Et finalement, quand ils arrivent à la restitution, ils sont tellement heureux parce que, ça les fait sortir et puis ils prennent conscience aussi. J'aime bien ce côté aussi de leur faire découvrir des choses qui sont en eux et qui sont pas forcément où on n'a pas forcément le temps ni la place dans un cours d'instrument d'avoir cette approche de, par exemple, et même moi, travailler sur le silence, la matière, travailler sur la mélodie ou travailler que sur la matière sans aucune mélodie, des choses comme ça qu'on travaille. C'est passionnant parce que ça fait chercher... Je me souviens d'un moment très drôle où un étudiant m'a regardé et m'a fait « Mais c'est impossible, je ne peux pas faire ça. » Il était vibraphoniste. Il m'a dit « Mais il faut que je fasse de la mélodie. » Je dis « Ben non, essaye d'aborder ton instrument autrement. »
Et ça, les séances et la classe de ciné-concert le permet. Parce qu'il y a l'appui de l'image, parce qu'il y a presque une sorte de liberté qui vous est donnée par l'image.
Oui, mais pas que. Je pense que c'est aussi un état d'esprit. Pas, bien sûr, l'image, mais je crois qu'il y a aussi... moi, dans mon travail, j'essaye de libérer aussi cette part qui est en nous, d'envie. Mais qui est tellement, comme vous disiez, tellement enfermé dans des cases. Voilà, on est pianiste, on est ondiste, on est... Moi, je l'ai remarqué, par exemple, bon, dans mon parcours, je suis ondiste, mais...
Vous rappelez ce que c'est pour les gens qui ne savent pas?
Oui, donc je joue aux Don Martenot. Et voilà, et quand j'ai commencé à aussi faire... pour mes compositions, de mettre au piano, de mettre même à la voix sur certains morceaux, ben voilà, ça déstabilise. Et en fait, finalement, ça devrait pas parce que, enfin, pour moi, on est musique quelque part. Donc finalement, la musique, elle sort de ce qu'on entend en nous, dans la mesure où on fait pas n'importe quoi, on a une base musicale, bien sûr.
On va écouter le morceau que vous consacrez à cette grande figure de Nanook dans Nanook of the North.
Thank you.
France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Christine Haute.
Christine, est-ce que vous avez pensé ce morceau-là comme un portrait de Nanouk ?
En fait, on l'a appelé Nanouk, mais finalement, c'est ce thème est en même temps sur l'entrée dans le film. Et on voit donc toutes ces images un peu de désolation, enfin de désolation de c'est un grand univers glacé avec la mer et on sent dans ces images. Après, je l'ai appelé Nanouk parce que finalement c'est plus peut-être la vie de Nanouk que le portrait de Nanouk, mais on sent voilà ce climat rude, cette mer agitée, avec on ressent même dans les images le froid, la difficulté. Enfin, je pense que c'est plus peut-être la vie de Nanouk qui va arriver dans ces difficultés, plutôt que vraiment le portrait.
Et ce visage en particulier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce choix du piano et de la manière dont il court ? Vous disiez tout à l'heure que à chaque film, à chaque projet, vous allez explorer des manières de faire différentes, aussi des instruments différents. Qu'est-ce qu'il y a dans le piano qui vous semblait aller avec ces vies-là, justement, avec ces vies qui sont filmées en 1922 par Flaherty ?
En fait, beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. C'est-à-dire que au niveau du piano, il y a une richesse harmonique, une richesse forcément expressive comme tous les instruments. Mais il y a aussi ce que j'aime beaucoup, c'est finalement il y a les cordes frottées, les cordes frappées, les cordes pincées finalement à l'intérieur. Donc c'est aussi d'exploiter là dans l'extrait qu'on a entendu, bien sûr, c'est plus le côté mélodique. Presque mélancolique, d'ailleurs, j'allais dire, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi cette douceur, cette fragilité. Et en même temps, dans ce morceau, pour moi, il y a une espèce de souplesse aquatique qui est quelque chose qui flotte, quoi.
Est-ce que vous avez écouté les créations musicales qui avaient été faites? Vous les avez décrites comme nombreuses autour de Nanouk of the North. Vous êtes empêchée d'écouter ça, ou au contraire, vous êtes allée curieuse écouter les précédentes compositions autour de ce film?
Non, j'écoute jamais rien. J'arrive toujours, j'aime beaucoup arriver en terre vierge. Et j'ai pas écouté. Après, une fois créé, des fois, il se trouve que, en général, jamais moi, je cherche pas. Mais quand je travaille avec des amis, ils me disent, tiens, t'as écouté, tout ça. Puis en général, je dis non. Mais bon, là, j'ai découvert, par exemple, sur Nanouk, j'ai écouté deux, trois choses, sur Tabou aussi. Mais vraiment, toujours après.
Et vous avez l'impression que votre lecture du film, elle est extrêmement différente de ce que les autres compositeurs ou compositrices ont pu entendre?
Oui.
Pourquoi ça vous fait rigoler?
C'est peut-être pour ça que c'est pas toujours évident d'exister avec cette personnalité dans le monde où on vit. C'est peut-être pas à dire, mais oui, je sens quelque chose qui est, comment dire, je me sens souvent en décalage.
Mais comme une singularité ou vraiment comme quelque chose qui ne pourrait pas être entendu ou pas être accepté?
Comme une singularité, comme quelque chose d'autres. Comme un ressenti différent, en fait. Oui.
Mais est-ce que ce n'est pas le cas de tous les musiciennes et de toutes les musiciennes, de tous les musiciens, de tous les artistes? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas dans le fait de s'exprimer très personnellement, très singulièrement, l'idée que de toute façon on sera un peu à part?
J'espère, sauf que dans le... bon, ça c'est un ressenti très personnel.
Bien sûr.
Dans le... Comment dire? Dans le paysage musical actuel, des fois, il y a une espèce de lissage qui m'affole un peu et de, entre guillemets, de mode de, qui, moi, me trouble. Après, comme vous le disiez, chacun, heureusement, c'est un moyen justement de s'exprimer, en tout cas pour moi, la musique. Et je pense que, oui, je ressens, enfin, on avait une discussion, des fois ça m'affole parce que j'ai l'impression que par moment, tout ce que j'écoute... a tendance à se ressembler, à rentrer dans des canaux, dans une manière d'enregistrer. Tout le monde a la même. Par exemple, pour le piano, piano feutré, tout ça. Enfin, tout. Et je retrouve même dans des clips les mêmes installations. Et ça me fait flipper, quoi. C'est parce que voilà, je préfère jouer moins, peut-être être programmé moins, mais garder. Même si elle plaît pas aux gens, mais garder mon entité, quoi. Enfin, garder qui je suis, même si c'est décalé avec la mode, si c'est voilà, c'est moi, quoi. J'ai pas envie de faire les choses parce que c'est bien de les faire comme ça, parce que tout le monde les fait comme ça. Et enfin, voilà.
C'est intéressant de parler de la pratique d'enregistrement parce que ça touche à un son, ça touche à la manière dont ce disque existe. Vous avez fait comment?
Alors là, ça, c'est un point un peu plus délicat parce que en fait, j'enregistre pour Tabou et Nanouk. On en discutait justement puisque en ce moment je suis dans un mix très très pointu pour un prochain album justement Don Marteneau seul qui va sortir a priori sur un petit label, enfin un petit, c'est pas négatif du tout, Nahal. Et on travaille donc sur que des sons d'ondes. Et là, il y a une recherche du son, un travail. Par contre, moi, sur Tabou et Nanouk, comme c'est quelque chose qui vient du live, que chaque live est un tout petit peu différent. Et par rapport à ce qu'on disait, bien sûr, il y a une trame, mais dans cette trame, il y a des moments de liberté. Et du coup, c'est un enregistrement qui est moins travaillé, qui est moins voilà, qui est un peu plus entre guillemets brut de pomme, quoi. Enfin, qui est un peu plus brut, voilà.
Et qui pourrait presque quoi vous faire nous faire entendre des moments où vous changez d'instrument, enfin nous faire entendre cette dimension scénique en fait de ce projet-là.
Peut-être. Oui, tout à fait. Oui. En tout cas, je pense que je parce que des fois, je préfère privilégier le geste musical plutôt que la qualité du son quand ce sont des lives. Après, par exemple, sur Only Silence Remains, qui est mon album précédent, là, il y a eu vraiment un travail très précis de Benoît Burger. C'est vraiment un ingénieur du son avec qui j'adore travailler et qui a été... effectivement, les pianos, il a pris un temps fou, il a réfléchi, enfin, il a trouvé un son que j'adore, enfin, chaleureux. Enfin, voilà, par rapport à mes musiques aussi, c'est toujours aussi trouver... en tout cas, pour moi, la qualité du son, c'est pas une qualité pour la qualité, c'est une qualité qui va rentrer dans l'univers de la personne et du morceau, en fait.
Puisque vous parlez des ondes Marteneau, on va l'écouter doublement. Présenté.
L'instrument est capable d'imiter, entre autres, les petits oiseaux. La vache. Un cri d'horreur. Une moto qui démarre. Enfin, il a dans son registre une merveilleuse voix lyrique propre à développer un grand thème mélodique.
Et la famille des cordes ne put résister au plaisir d'accompagner cette voix lyrique des ondes Martenot qui semblait venir d'un autre monde.
Les ondes Martenot, c'était intéressant parce que Messiaen s'en était servi. S'en était servi en particulier dans les trois petites liturgies qui ont été créées en 45. Donc ça m'a donné l'occasion de faire cet instrument. Et surtout, ce qui m'intéressait dans cet instrument, c'était les plus petits intervalles que le demi-ton. Parce que ça pouvait être un instrument qui était continu, complètement, qui avait un clavier comme un clavier de piano, mais qui avait un ruban, ce qu'on appelle, et le ruban pouvait être simplement continu. Si bien que si on était assez habile, on pouvait faire des quarts de ton, on pouvait faire des toutes petites distances même. Et ça, ça m'intéressait. Le côté sonorité m'intéressait, je veux dire, moins, parce que je ne trouvais pas que c'était une sonorité très originale, et qu'il y avait surtout des ressources très limitées. Vous aviez trois timbres pratiquement, et c'est tout de même insuffisant pour un instrument.
Ah, vous allez engueuler un petit peu Pierre Boulez quand même en 2007, qui n'est pas très convaincu par les ondes Martenot, mais juste avant, on avait cette présentation magique tirée de Piccolo Saxo et compagnie, produite là par François Perrier en 2006. Christine Hott, alors sur le projet qui nous occupe là, le projet qui va sortir le 25 octobre, Nanook of the North, il n'y a pas d'ondes Martenot. En revanche, c'est aussi une des choses pour lesquelles vous êtes connu ou reconnu, c'est votre qualité d'ondiste. Alors comment vous êtes tombée dans l'onde Martenot?
En fait, je suis tombée dans l'onde Martenot par, étrangement, par une partition. Et le titre d'une partition, c'est très bizarre avant le son. C'est-à-dire, j'avais mon
décidément, procès. Décidément, toutes ces choses qui vous tombent du ciel, c'est fou quand même.
Et en fait, c'était mon professeur de piano à l'époque, était ami avec le professeur d'onde qui était à l'époque donc à Strasbourg, Françoise Cochet-Mitterrand, avec qui j'ai travaillé ensuite. Et je suis rentrée dans la salle d'onde Martenot et j'ai vu une partition où c'était marqué « Son relief » de Jean-Marc Morin. Et cette partition m'a hypnotisée. Et finalement, ça, on a.
Vous étiez en mesure de la lire, de l'entendre, je veux dire.
Visuellement, d'entendre des parties, mais surtout c'est visuellement. Je suis quelqu'un de très visuel. Des fois, je me dis, est-ce que je suis musicienne ou quelqu'un. Ouais. Et la partition, le graphisme m'a intéressée. Et puis, au fur et à mesure. Voilà, j'ai recroisé Françoise, elle m'a dit « mais tu voudrais pas venir voir, passer un peu de temps ?» Et puis ça s'est fait comme ça, j'ai passé du temps avec elle et moi, j'ai été très attachée à cette femme aussi par la suite. Et du coup, je lui ai dit « voilà, j'ai envie de travailler cette partition ». Elle m'a dit « mais c'est trop dur, trop difficile tout de suite, mais pourquoi pas ?» Et voilà, je me suis inscrite ensuite et on a travaillé ensemble pendant... je ne sais pas, une dizaine d'années au plus. Ou...
Et vous avez quitté le piano? En tout cas, pas complètement, puisque vous le retrouvez dans vos compositions.
Oui, je l'ai toujours eu un tout petit peu, puisque c'était toujours quand même la base de mes compositions. Et voilà, ça a toujours un peu vécu avec moi, le piano aussi.
Ouais. On entendait dans la voix de Pierre Boulez l'idée que c'est un instrument intéressant parce qu'il permet une sorte de continuité, de travailler sur des intervalles musicaux extrêmement petits. Est-ce que vous pouvez essayer de nous le dire en des termes un tout petit peu moins savants pour des personnes pour qui l'écart tonal ne dit pas grand-chose?
Alors, il y a quand même une chose sur laquelle je dois revenir historiquement.
Il se trompe.
Il se trompe sur les trois timbres. Alors, la position de Pierre Boulez, elle est assez délicate parce que finalement, il a vécu, grâce aux ondes Martenot, un laps de temps assez long. Et puis finalement, il y a eu des articles très très durs qui ont beaucoup desservi les ondes Martenot, où il disait que c'était un instrument révolu, dépassé. Donc, quand il dit il y a trois timbres, c'est faux. Après, qu'il ait trouvé peut-être... je pense qu'il y a une exploitation incroyable, tant au niveau des timbres qu'au niveau aussi des diffuseurs. Bon, là, je rentre dans des choses techniques, mais finalement, c'est un instrument qui... quand on a la chance d'avoir les diffuseurs d'origine, ce qui est plus toujours mon cas, mais on a...
Vous parlez d'amplification ?
Oui, c'est ça. Mmh. Voilà, on a ce qu'on appelle, je vais essayer d'être pas trop dans le jargon, mais le diffuseur principal qui est un son direct, comme une enceinte, donc qui reproduit. Il y a la résonance qui est donc comme une réverbe, qui était à ressort, donc très très organique. Il y a un gong ou tam qui lui aussi avec un moteur électronique est actionné. Et puis il y a une palme. Donc déjà au niveau de du son, rien qu'au niveau des diffuseurs, on a une palette sonore qui est quand même déjà énorme. De ces quatre diffuseurs, on peut jouer d'un diffuseur, de deux, on peut les mélanger, on peut... Et puis après, il y a tous ces timbres. Dans la méthode de Jeanne Loriot, avec qui j'ai eu la chance de travailler également, elle dit qu'il y a, je ne sais plus par cœur, mais 60 000 combinaisons de timbres. Donc je pense que là, il y a peut-être une vision qui est un peu dure et restreinte des ondes.
C'était fâché avec les ondes Martenot, quoi, pendant un moment donné.
Je pense que peut-être, c'est peut-être par rapport, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais c'est peut-être par rapport à ce qu'il a comparé à d'autres synthétiseurs analogiques. Je sais pas, mais moi je pense que c'est très riche. Il y a ce clavier, le clavier qui est suspendu, permet du vibrato, et il y a la bague dont justement il parle, c'est-à-dire un anneau et qui permet des glissandis, qui permet des quarts de ton, qui permet de... Voilà, je pense que quand on maîtrise vraiment la technique, elle est longue et pas évidente, je pense que quand même il y a des choses incroyables à découvrir. Enfin,
en vous écoutant comme ça décrire l'instrument, on imagine qu'il y a plein de trucs à faire en même temps, que c'est très physique, que vous devez bouger dans tous les sens en jouant, pas du tout, que c'est quelque chose de moins statique que le piano, par exemple.
Alors, on est assis, mais en fait, en même temps, pour moi, le piano même, c'est pas tellement statique
non plus.
En
le disant, je me suis dit que c'était un peu débile de dire ça.
Non, c'est pas... Mais finalement, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est différent. Et j'ai envie de dire que le fait d'être ondiste, je joue plus du tout du piano de la même façon. Parce qu'il y a ce dont on n'a pas parlé, c'est cette touche d'expression qui est vraiment sensationnelle, qui est vraiment le cœur de l'instrument. Et qui, en fait, permet... d'arriver de ce qu'on appelle le son filé, donc du silence absolu, et de créer, de faire venir le son progressivement et de faire...
Comme un petit fade-in dans le
exactement,
réel, quoi.
Exactement, oui, de créer un crescendo. Et ça, c'est avec la seule maîtrise de sa main gauche. Donc, il y a une indépendance aussi, et qui fait que je suis arrivée... Il y a peut-être... Grâce à cette touche d'expression, aux ondes Martenot, une sculpture qu'on arrive à faire vivre. Et du coup, cette sculpture, j'ai envie de la reproduire au piano. Et du coup, ça donne un jeu différent. Mais je pense que votre senti est vrai. Alors, peut-être pas de bouger, mais il y a beaucoup de choses. On peut passer du clavier au ruban. Sur le clavier, on a du vibrato. Au ruban aussi, il y a cette indépendance des mains qui est très différente du piano. Il y a des changements de timbre au fur et à mesure où on joue.
Il y a des pédales ?
Oui, il y a des pédales qui permettent aussi de lâcher le clavier et d'avoir donc une touche d'expression également au pied, qui bien sûr est un tout petit peu moins sensorielle que la main, mais qui permet de faire d'enchaîner des notes rapidement, etc. Et ce qu'on appelle la pédale de gauche, qui est un feutre qui permet de faire arriver aussi le son... progressivement.
C'est ludique ?
Oui, assez. Assez, et en même temps, je pense qu'il faut être très concentré. Mais oui, oui.
Mais vous avez qui comme genre d'étudiant à Strasbourg qui apprend les ondes Martenot ?
C'est surprenant. C'est passionnant. En fait, il y a des gens qui... En fait, le premier moteur, c'est des gens passionnés. Il y a des gens... qui vont des personnes qui peuvent arriver là par exemple je pense à Christopher un étudiant qui est arrivé qui était première clarinette solo à l'orchestre de Munich en Allemagne
et qui s'est dit plaisant de Martenot
qui a complètement voilà eu un coup de cœur là on a un étudiant qui arrive de Mexico pour étudier qui a eu un coup de cœur pour l'instrument voilà et il y a des fois des percussionnistes qui s'intéressent aux ondes mais ce qui est guidé, c'est justement c'est cette richesse sonore et voilà. Donc du coup, là, je partage pas tout à fait, même si j'ai grand respect pour Pierre Boulez et surtout le chef d'ailleurs. Voilà, je pense qu'il y a quand même. Après, il y a comme pour tout instrument, il y a un peu ce qu'on a vu sur Piccolo Saxo. Pour moi, ce sont plus des effets et que certaines personnes, c'est justement y a l'effet ludique. La première approche peut paraître très ludique, mais après la technique elle-même, notamment la technique du ruban, elle est extrêmement longue et difficile parce qu'il faut gérer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut gérer l'indépendance des mains. Il faut gérer les gestes lents, les gestes rapides. Il faut gérer le relevé à la main gauche. Enfin, bon, et là, on est vraiment plus dans une vraie sculpture sonore et il faut vraiment avoir comme le chanteur, il faut. Il parlait justement, il évoquait les petites liturgies que je vais rejouer justement de Messiaen, que je vais rejouer avec orchestre en Allemagne. Dans les petites liturgies, il y a notamment dans le troisième mouvement, il y a le solo d'onde de Martenot qui est extraordinaire, mais qui demande un travail de vibrato continu extrême, parce que sinon, pour trouver la phrase et pour pas faire du note à note, et donc il y a le travail de justesse, il faut vraiment avoir une vue musicale pour surtout éviter le note à note, pour vraiment porter la note d'un son à l'autre, choisir est-ce qu'on va choisir un geste lent, est-ce qu'on va choisir un geste semi-glissé, etc. Et vraiment, c'est technique, mais en même temps, c'est finalement comme une voix, quoi.
On a quand même l'impression que vous la voyez, la musique, Christine Hoth, depuis tout à l'heure. Si on avait la possibilité de mettre de la lumière dans vos gestes, la sculpture, on l'aurait. Enfin, c'est vraiment très spatial pour vous.
Oui. Oui. Pour moi, c'est un instrument d'espace. Ouais, avant tout.
Mais toute la musique est comme ça dans votre tête ?
Les ondes particulièrement, parce que je pense que c'est vraiment, c'est pas un instrument qu'on peut confiner. Je pense qu'il a besoin de spatialisation, de vivre, oui, vraiment.
Et pourtant, vous l'avez mis dehors quand il s'est agi de composer la musique pour Nanook of the North.
Non, je l'ai pas mise dehors. Elle est tout le temps dans mon cœur, mais. Disons que voilà, je l'ai pas entendue. Elle n'a pas chanté là et voilà. Mais...
Ce que vous avez entendu, c'est entre autres choses le Hang qui est joué par Thorsten Butcher, mais on va entendre le musicien Steve Sheehan en parler.
Alors évidemment, au départ, c'était un petit peu une gamme des Antilles, quoi. C'est un peu bon, c'était pas exactement ce qui pouvait me fascinait, donc on a discuté beaucoup de l'intérêt de l'instrument qui était quand même très facilement, on peut se l'approprier très facilement, c'est là où réside le piège aussi, mais bon...
On jouait avec les doigts,
il y a
les doigts
notes,
et pas les baguettes.
Ouais, ça change, donc déjà c'est tactilement assez agréable, et c'est vrai qu'il y a une gamme préaccordée, donc on peut s'imaginer être musicien très facilement, c'est là où, comme je disais, réside le piège. Mais... En allant chercher donc des gammes un peu différentes, une gamme indonésienne, des gammes pentatoniques, des gammes diminuées, enfin des gammes, il y a même des gammes dixièmes de ton iraniennes. Là, ça a commencé à devenir intéressant parce que du coup,
vous parlez d'instruments révolutionnaires.
Ah oui, vraiment. On s'attend à tout sauf à ça à notre époque. Enfin, à part de la récup. Et je suis très très fan. Enfin là, je suis très impressionné par les deux personnages avec nous là, parce que. Ça me parle. Enfin, c'est pas loin de la même chose. C'est une plaque de fer, c'est une sorte de wok. C'est de la pression dynamométrique sur une seule plaque unique. Une pression dynamométrique sur l'orgue de cristal, c'est le même principe. Et je me sers beaucoup d'orgue de cristal aussi. Donc j'adore ce genre de truc inattendu, fait de récup, de choses simples, de matériaux simples. Alors là, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu tout d'un coup un engouement. Dès que le hang a commencé à être un petit peu connu, la France a mis un peu de temps, ça commence à s'ouvrir. Mais il y a des pays, là j'étais même à la frontière mongole, en Russie et tout, il y a des villages où ils ont des dizaines, des quinzaines de hang, quoi. Enfin, c'est une folie dingue, quoi. Donc tout d'un coup, le monde entier se retrouve avec cette soucoupe volante. Thank you.
C'est un dernier extrait du disque Nanook of the North, Christine Ott. Il s'agit ici de Family. Vous parlez des choses que vous avez entendues comme ça avec évidence lorsqu'il s'agit de composer une musique pour le ciné-concert autour du film de Robert Flaherty. Le hang est arrivé immédiatement. Ce qu'on entend là, justement, cet instrument-là, ça a été une évidence pour vous?
Alors, je voudrais juste revenir, si j'ai le droit, le temps de rebondir sur ce qui a été dit. En fait, je pense que c'est un peu, la vision de Thorsten est un peu différente. C'est-à-dire que il travaille déjà avec deux hang.
Donc Thorsten Butcher, c'est le musicien avec lequel vous travaillez.
Voilà. Et il travaille avec deux hang, avec, comme il les appelle, le hang triste et le hang happy hang et sad gay hang, voilà. Et du coup, il a aussi, en fait, c'est pas uniquement un instrument mélodique, parce que plus loin, dans des parties, la chasse, etc., il utilise la tranche. Et ça, il y a très très peu de joueurs de hang qui le font.
La tranche de la main.
Et aussi, il retourne le hang. D'habitude, le hang, on le joue comme ça, entre ses jambes et comme ça. Mais lui, il le retourne et de manière à aussi l'aborder de façon rythmique. Et ça, c'est assez... Ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est qu'il y a une autre utilisation. Et alors, il y a un parallèle aussi qui est très étonnant et que peu de gens savent. C'est pas un instrument du tout qui se trouve partout. C'est-à-dire que le hang original est fait par deux personnes en Suisse. C'est un instrument suisse. Parce que souvent, les gens vous disent c'est un instrument exotique. En fait, pas du tout. C'est un instrument fabriqué en Suisse. Et il faut savoir, et ça ressemble un peu... à l'univers des ondes, Marteneau, on a fait un parallèle en se rencontrant, que c'est un instrument, c'est ces deux personnes qui font le hang, qui veulent voir les personnes qui vont acheter, et c'est eux qui décident s'ils vont vous vendre le hang ou pas. Et ils refusent à certaines personnes de le vendre ou pas. Après, depuis, il y a eu des copies, etc. Et moi, je pensais que, comme on voit un instrument en métal, je pensais que c'était pas très fragile. Et en fait, en partant à La Rochelle avec Thorsten, je me suis rendu compte que il y a cette fragilité folle du hang qui se désaccorde facilement, qui se désaccorde au niveau des températures, qui il faut surtout pas que n'importe qui joue dessus. Enfin voilà. Et donc il y a un peu ce pendant. La facture est très particulière, comme la facture des ondes Marteneau, et qui a failli disparaître. Heureusement, elle est reprise actuellement par des flambeaux. Mais disons qu'il y avait un parallèle comme ça. Et il y a. Alors je trouve que c'est toujours. Il y a l'instrument, mais il y a aussi la personne qui est derrière. Et en fait, c'est le jeu aussi de
Thorsten Butcher qui est arrivé avec évidence. Voilà. Nanook of the North, c'est donc le titre d'un disque qui va sortir chez Guizet Records le 25 octobre. Vous allez être en tournée pour ce projet de ciné-concert. On mettra les dates sur le site internet de l'émission. Mais donc le 8 novembre à Bischheim, le 15 novembre à Cernay, le 29 novembre à Kems, le 10 décembre à Célestat et le reste sur le site internet. Merci beaucoup Christine Ott. On va terminer avec Frank Zappa qui a beaucoup aimé Nanook lui aussi.
Merci.
Well, right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. Ooh. And started into whipping on my favorite baby seal. With a lead-filled snowshoe.
À la prise de son, c'était Valérie Lavalard. Lise Marie Barré à la réalisation, Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, mais aussi Marianne Chassor, Luque Vauvillier et Lucie Riandet. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr et via l'appli Radio France au podcast de Par les temps qui courent. Dans un instant, 22h sur France Culture. Très belle soirée.
Well, he caused some terrible damage to my favorite baby seal. And so I forgot what I did there. What do I do there? Do I reach down there? A what? Oh, yeah. And so...
You gotta reach down before you pound.
Oh yeah, that's what I thought. And so I reached down with my genuine Nanook of the North, patented whale blubber mitten. And I reached down, and I stooped down, and I bent down, and I gathered up a generous mittenful of the deadly
yellow snow.
The deadly yellow snow from right there where the huskies go. And then I proceeded to rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the citizens of this area, but destined to supplant the mud shark in your mythology. Here it is, ladies and gentlemen, take it away. And then I, in a fit of anger, I pounced again.